Bonjour à tous et bienvenue dans Génération Geek comme chaque semaine avec, bien sûr cette semaine, on ne la rate jamais, Marjorie Glénisson. Salut Marjorie.
Salut.
Et nous accueillons aussi Chloé. Salut Chloé, comment ça va ?
Salut, ça va très bien.
Alors c'est marrant parce que j'ai dit le nom de famille de Marjorie mais j'ai pas donné le tien. C'est Chloé Dubois ?
Ouais, c'est ça, voilà. Exactement.
Ou est-ce que c'est Prunier Dubois ?
Non, c'est Dubois.
Chloé Dubois. On est ravis de t'accueillir, Chloé, cette semaine. On en a parlé un petit peu la semaine dernière. On avait annoncé, on avait teasé ta présence. On avait surtout parlé du sujet de l'émission. On va parler cette semaine encore d'Harry Potter et de l'univers autour d'Harry Potter. On a parlé la semaine dernière du film Les Animaux Fantastiques. Tu as été le voir aussi, Chloé. On a fait une émission complète là-dessus. On ne va pas y revenir trop longuement, mais tu peux nous redonner quand même ton avis à toi sur ce film Les Animaux Fantastiques.
Les Animaux Fantastiques, bah oui, je l'ai vu. On était le voir ensemble, donc on connaît bien. Voilà, on a eu des avis très divergents sur cette question-là. Moi, je ne l'ai pas trop mal aimé. Je ne vais pas dire que j'ai adoré. Mais je trouve que le côté un petit peu enfantin, le côté fantastique, est plutôt sympatoche, j'ai envie de dire. Voilà. ça rappelle un peu l'univers du premier Harry Potter. Voilà, je n'irai pas le voir 15 fois, mais il est pas mal.
Alors là, on va parler justement de Harry Potter avec le livre qui est sorti, le livre qui est en fait le texte de la pièce. Est-ce que tu sais, Chloé, si elle a été jouée en France ou pas ?
Non, elle n'a pas été jouée en France, elle a été jouée qu'en Grande-Bretagne.
Donc c'est voilà, une pièce écrite par J.K. Rowling, donc jouée qu'en Grande-Bretagne. Elle est un peu polémique, la pièce, notamment parce qu'effectivement le texte a été lu par plusieurs de nos collègues, compatriotes, et les avis sont vraiment partagé, je dirais pas mitigé parce qu'ils sont partagés, il y a des gens qui aiment beaucoup, d'autres qui détestent, mais même quand la pièce est sortie en Angleterre, il y a eu des polémiques, et il y a notamment une polémique sur le rôle d'Hermione, je crois.
Oui, effectivement, il y a eu une polémique parce que Hermione était métisse. Donc, la personne qui jouait Hermione était métisse. Et effectivement, dans le livre de J.K. Rowling, elle n'est pas décrite comme ça. Donc, pour les grands fans, c'était un peu compliqué. Maintenant, moi, je n'ai pas forcément adhéré à cette polémique-là parce que j'ai envie de dire, chacun son imaginaire et chacun un petit peu sa façon de voir les choses.
Ce qui est amusant, c'est que J.K. Rowling a évidemment surveillé de très près la mise en scène de la pièce et le casting de la pièce. Tu dis, dans le livre, elle n'est pas décrite comme ça, mais elle n'est pas décrite autrement non plus. C'est-à-dire que si j'ai une bonne mémoire sur ce livre et ce personnage, on dit qu'effectivement, elle a les dents de devant un petit peu écartées, Hermione, et un peu longue d'ailleurs, et ça lui pose des problèmes. À un moment donné, elle les fait même réduire par magie, ses dents, etc. On sait que ses parents sont dentistes, mais à aucun moment, on parle de la couleur de sa peau. On dit qu'elle a les cheveux frisés aussi, et qu'elle a du mal à se coiffer, mais à aucun moment, on parle de la couleur de sa peau. Et effectivement, dans le film, l'actrice qui joue Hermione, dont j'ai plus le nom, Marjorie.
Emma Watson,
voilà, est blanche de peau. Elle se fait friser les cheveux pour le film. Elle a les dents parfaitement superbes, on va dire. Mais effectivement, quand elle a casté le personnage pour la pièce, J.K. Rowling, et qu'elle a choisi une actrice métisse, elle a dit mais et alors ? En fait, à aucun moment, je dis qu'elle est pas blanche. Et c'est vrai que si on met le côté cheveux frisés et puis qu'on parle un peu des dents, bah, ça peut sans aucun problème correspondre à un personnage métisse. Et j'ai trouvé que la polémique était étrange, finalement, parce qu'effectivement, moi aussi, dans mon imaginaire, je la voyais plutôt comme on la voit dans les films, finalement, mais qu'en effet, il n'y a aucune raison qu'elle ne soit pas métisse.
Effectivement. C'est ce qui a fait, alors, plus que les films, hein, je pense que toutes les illustrations, de toute façon, telles qu'elles étaient faites, mettaient un personnage brune rousse, hein, les cheveux effectivement frisés, blanche de peau. Et après, je pense que le personnage d'Emma Watson a correspondu à toutes ces illustrations. Maintenant, effectivement, il n'y a pas de raison particulière pour que Hermione pourrait être métisse également. Pareil, je pense, ouais.
Alors, cette pièce, déjà, un premier avis, Chloé, tu l'as ramenée avec toi, oui. Tu l'as lue. Si j'ai bonne mémoire, c'était imprimé dans le département, en plus, le livre en France.
Oui.
C'est une imprimerie du département oui. Qui imprime souvent, d'ailleurs, des gros tirages, oui. Et des choses un petit peu spéciales.
Ils avaient imprimé Millennium, voilà, et c'est eux effectivement qui, donc sur Alençon hein, d'ailleurs, qui ont imprimé Harry Potter et donc et l'enfant maudit.
Alors on connaît quelques personnes, on va le dire, hein, qui travaillent dans l'imprimerie et on voit souvent dans la pièce, quand y a, enfin dans la presse, quand il y a des sorties comme ça. Et effectivement, on sait que y a un énorme secret qui entoure effectivement ces tirages-là. Voilà, quand l'éditeur arrive avec non pas le manuscrit mais le fichier numérique, d'un coup dans toute l'entreprise, c'est on ne doit pas en parler, ça ne doit pas sortir dans l'entreprise, effectivement pour pas que le texte fuite du tout, pour garder une espèce de silence radio sur tout ce qui se passe. Et du coup, c'est une, alors je dirais pas que c'est une pression, mais c'est une responsabilité aussi pour les différentes personnes de la chaîne d'imprimerie à ce moment-là qui travaillent dessus, et une grande fierté derrière quand ça sort. Je crois.
D'ailleurs, jusqu'à la sortie, je crois pas que ça ait fuité plus que ça. Enfin, moi, j'en
non,
ai pas
c'est,
plus
c'est
que
après
ça,
que moi je l'ai vu dans la presse. Mais voilà, même nous qui connaissons bien quelques personnes travaillant, on sait bien quand ils reçoivent quelque chose comme ça, si on demande bah alors tu bosses sur quoi en ce moment, c'est ah non, moi je peux pas vous dire et je vous dis jamais parce que je peux pas vous dire ça. Donc c'est vraiment un secret qui est bien gardé. Ah, parce que tu me regardais, Marjorie, alors c'est très radiophonique, mais tu me regardais, alors j'entendais que tu voulais dire quelque chose, mais tu ne faisais que confirmer effectivement ce
je hoche de la tête.
Tu hoches la tête, voilà. Chloé, donc tu as le livre avec toi.
Oui.
Donc le texte de la pièce, tu l'as lu. Ta première impression sur la pièce, c'est quoi ?
Alors, je vais d'abord dire ce que j'ai, les ressentis que j'ai pu avoir avant de le lire. C'est-à-dire que j'avais une très très grande crainte sur ce livre-là au tout début, tout simplement parce que c'était sous forme de pièce de théâtre. Moi, je trouve que la grande force de J.K. Rowling, c'est son côté narratif. Du coup, qui est forcément perdu ou en tout cas mis autrement dans le cadre d'une pièce de théâtre. J'ai été plutôt agréablement surprise sur la façon dont c'était tourné, parce qu'il y a des didascalies quand même qui expliquent pas mal les choses, et je trouve que les dialogues sont pas trop mal tournés et on se laisse embarquer.
Quand tu dis la force de J.K. Rowling, c'est sur le côté narratif, c'est finalement les descriptions, les enchaînements de péripéties, ouais. Mais sa grande force, c'est pas forcément les dialogues dans l'écriture de ses livres, et finalement on le voit sur la pièce que ça passe, quoi. Ça fonctionne mieux, c'est bien utilisé.
Ouais, c'est exactement ça, et je trouve que J.K. Rowling, alors après moi je vois ça aussi, j'ai vu ça avec mes yeux d'ado à l'époque, parce que j'ai commencé à lire Harry Potter quand j'étais adolescente, je trouve qu'il y avait un côté très simple dans son écriture, mais en même temps qui embarquait très facilement le lecteur, et je pense que c'est aussi pour ça qu'elle a eu autant de succès avec sa pièce. Aujourd'hui... Harry Potter et l'enfant maudit, j'ai envie de dire, je suis mitigée, c'est-à-dire que il y a de très bons côtés. Je trouve que c'est pas trop mal écrit, ça se lit bien. Voilà. Après, j'ai pas non plus été transcendée comme j'ai pu l'être sur les premières versions. J'ai trouvé le côté 19 ans plus tard un peu facile. C'est-à-dire que je trouve que ça pourrait on aurait pu faire bien autre chose avec l'univers d'Harry Potter.
Mais là, c'est pas J.K. Rowling qui a vraiment écrit la pièce, si j'ai bonne mémoire, c'est d'autres auteurs. Et du coup, elle a juste écrit une nouvelle sur laquelle la pièce est basée. Mais du coup, c'est pas vraiment du J.K. Rowling, sinon elle l'aurait pas écrit de cette manière, je pense.
C'est pas vraiment du J.K. Rowling, mais elle a été très présente sur le projet. Donc ça reste quand même la patte de J.K. Rowling, même si c'est basé sur une de ses nouvelles, effectivement, c'est pas elle qui a écrit la pièce de théâtre. Je pense que J.K. Rowling n'est pas forcément de toute façon un écrivain de pièces de théâtre. Maintenant, je pense que tout ça va, voilà, je trouve qu'effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, je trouve qu'il y a le côté un peu, voilà, un peu facile de toute façon des 19 ans plus tard.
Alors, tu parles de 19 ans plus tard, hein, il faut qu'on donne quand même un petit peu le pitch de la pièce. Donc on est, contrairement aux animaux fantastiques, on est non seulement dans l'univers d'Harry Potter avec, on le rappelle, hein, ces sorciers qui ne sont pas présents, enfin qui sont dans l'Angleterre d'aujourd'hui, mais qui ne sont pas connus par les non-sorciers qu'on appelle les moldus. Et puis effectivement, là on est 19 ans après ce qui se passe dans les films. Donc on n'est pas avec Harry Potter, Hermione et Ron, même si on en entend parler dans la pièce, je suppose, mais avec leurs enfants, c'est ça ?
Ouais. Alors on entend beaucoup parler dans la pièce, hein, quand même. C'est-à-dire que Harry, Ron et Hermione restent des personnages principaux. Après, il y a donc le personnage principal, donc c'est Albus. C'est effectivement le fils Harry Potter.
Albus, hein, dont le prénom était donné en hommage au fameux Albus Dumbledore, Albus le directeur Dumbledore. De Poudlard dans toute, voilà. dans toute effectivement, la série Harry Potter.
Et donc le deuxième personnage principal, donc c'est la génération suivante, hein. Donc c'est Scorpius, Scorpius qui est le fils de Drago Malfoy.
Alors Drago Malfoy, c'est l'ennemi d'Harry Potter. Mmh. Alors l'ennemi, c'est pas l'ennemi direct, parce que l'ennemi direct c'est le fameux Voldemort, celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Drago, c'est son camarade de classe, mais qui est pas dans la même section de l'école, c'est-à-dire qu'il est dans les deux sections un petit peu rivales. Et donc plus que son ennemi, c'est effectivement sa némésis ou son rival. Mmh. Et puis effectivement Harry Potter est plutôt du côté, on va dire, pour schématiser, peut-être un peu manichéen, du côté des forces du bien, Drago un peu du côté des forces du mal. Mais quand on suit un peu les films et l'œuvre, il y a une forme, en tout cas sur la fin, de respect ou de réconciliation, même si ça reste relativement froid et qu'il y a de l'animosité encore, il y a une forme d'armistice, j'ai envie de dire, d'arrêt de la guerre, de tolérance de l'autre, en tout cas, qui existe. Et là, donc, la génération suivante, Albus et Scorpius.
Scorpius, ouais.
C'est ça. Comment ils s'entendent, les deux?
C'est les deux meilleurs amis.
C'est les deux meilleurs amis, d'accord.
Ça doit faire enrager leur père.
Exactement. Exactement. C'est-à-dire que tout commence, bon, là, je ne spoile pas hein, quand je dis ça, c'est qu'en fait, Albus est admis à Serpentard. Et pas à Gryffondor comme son père. Donc, et c'est là qu'il rencontre effectivement Scorpius, qui lui-même est admis à Serpentard, là comme son père.
En fait, la pièce démarre exactement là où le film s'arrête. Si on se rappelle bien, le dernier des films Harry Potter, effectivement, il y a le combat final, et puis après, on se retrouve sur le guet de la carte 9¾ à Poudlard. On a Harry Potter qui a vieilli, on a effectivement, il est en couple avec Ginny, ouais. Il y a à côté de lui Ron et Hermione qui sont en couple, et puis il y a Drago qui est en couple avec une autre jeune femme, donc je crois qu'on la connaît pas spécialement.
Ouais, ils en parlent un petit peu hein, là dans l'œuvre de, enfin dans Harry Potter et l'enfant maudit. Après, donc l'histoire se passe où Scorpius a perdu sa mère de toute
D'accord.
façon. Voilà, donc il y a une polémique en fait. Enfin, il y a une polémique. Il y a en fait une suspicion que Scorpius serait en fait l'enfant de Voldemort et pas D'accord. l'enfant de Drago Malfoy.
Mais si je reviens à la gare, il y a ce dialogue entre Albus et Harry, donc Albus Potter et Harry Potter, où Albus dit à la toute fin du film, mais papa, qu'est-ce qui se passe si jamais je vais pas à Gryffondor? Qu'est-ce qui se passe si je suis admis à Serpentard? Et là, Harry Potter lui dit, mais tu sais, moi aussi, j'ai failli aller à Serpentard et le choix peau magique te laisse le choix. Ouais. Et donc, j'imagine que le début de la pièce est quasiment quelques heures ou quelques minutes après ça, non?
Et bah, Marjorie, en fait, pas complètement. Je te laisse Marjorie.
Ah non, tu peux continuer parce que je voulais juste pour nos auditeurs, Serpentard, Gryffondor, voilà. Oui. C'est les maisons dans Poudlard, il y en a quatre en tout, Serre d'Aigle, Poufsouffle, Gryffondor et Serpentard. Les Serpentards sont plutôt rusés et très intelligents.
Alors si on a fait toutes, déjà, voilà. Serre d'Aigle, c'est pour les intellos.
Voilà, Poufsouffle, c'est pour ceux qui sont très 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 gentils.
Les travailleurs.
Les aussi. Travailleurs aussi. Courageux, voilà. Les Gryffondors, c'est plutôt les courageux et les on fonce dans le tas. Et les Serpentards, voilà, on va foncer dans le tas, on est courageux aussi, mais c'est mieux si on passe par des chemins détournés pour arriver à notre but.
Malin, rusé, voir si on pousse ça de côté malsain.
Et pour
vicieux, quoi,
pour dire tout, voilà, les grands sorciers du bien viennent. Généralement de Gryffondor et à Serpentard, on a vu un certain Voldemort passer dans les classes. Voilà, ça vous donne un petit peu le topo.
Mais Rogue, qui finalement pas si mauvais, est
très.
Aussi passé à Serpentard,
voilà.
Donc y a aussi
mais
des gens
il est aussi très rusé et il a tout du Serpentard accompli.
Et alors, Rogue, c'est un autre personnage hein, d'Harry Potter. C'est le professeur qu'Harry Potter n'aimait pas et qui se révèle finalement être quelqu'un qui l'a peut-être aidé beaucoup plus que ce que l'on pense au départ quand on lit les livres.
Je trouve que c'est le personnage le plus intéressant d'ailleurs dans Harry Potter.
C'est sans doute effectivement le personnage qui a le plus de profondeur effectivement et qui le surprend le plus et qui du coup est extrêmement, extrêmement intéressant. Alors on se retrouve du coup quelques temps après, c'est ça?
Alors
enfin, en
c'est,
tout
pas,
cas, dans...
c'est pas exactement ça. En fait, moi je me suis aperçue de ça, c'est que à la fin du film, il parle donc à son fils James.
Ah, c'est pas Albus, c'est
en fait,
James. D'accord.
Et le deuxième est Albus.
D'accord.
Donc en fait, c'est à son deuxième fils qu'il parle. Donc il a quasi, c'est bizarre, il a quasiment le même dialogue, c'est quasi du mot pour mot, mais c'est pas le même fils.
D'accord, je me suis trompé de fils, c'est quand même dommage. On va sur une petite pause musicale, ouais. Et puis on va revenir effectivement sur cette pièce juste après, sur comment effectivement tu l'aperçois, les enjeux, même si tu l'as dit, hein, il y a cette facilité de se dire 20 ans après. D'ailleurs, 20 ans après, ça me fait penser un petit peu aux mousquetaires. Et pour ça, avant la pause musicale, on vous rend renvoie sur YouTube pour en savoir plus sur Les Mousquetaires et 20 ans après, justement. Petit clin d'œil. De retour dans Génération Geek pour parler d'Harry Potter et de cette pièce, Harry Potter et l'enfant maudit, pardon. On rappelle une pièce qui a été jouée en Angleterre, dont le texte traduit est sorti en France il y a maintenant un mois et demi.
Un mois environ, ouais, c'est sorti au mois de novembre.
Et qui a été imprimé en plus dans le département de l'Orne, donc un petit cocorico orné, voilà, je sais pas si ça a du sens un cocorico orné, mais en tout cas alors, on va le faire comme ça. Chloé, effectivement, tu as lu la pièce, donc le pitch, hein, ça se passe 19 ans après ce qu'on peut voir dans les films, et tu nous disais il y a le fils de Drago Malfoy, je sais pas comment on le dit,
Malfoy
pardon à l'anglaise, qui s'appelle Scorpius, qui est le meilleur ami du fils d'Harry Potter qui s'appelle Albus. Qu'est-ce qui se passe entre ces deux meilleurs amis alors que leurs papas sont des rivaux?
C'est-à-dire que entre les deux se lie effectivement une amitié très très forte, aussi forte qu'entre Ronald Weasley et Harry Potter à l'époque, et forcément ça va pas du tout être bien vu par les papas respectifs, hein, quand même, faut peut-être pas exagérer, même si ils tolèrent à peu près, faut pas exagérer. Y a une rumeur en fait qui court sur Scorpius, comme quoi il serait l'enfant de cette femme donc qui est décédée, j'ai plus le nom comme ça en tête, et puis de Lord Voldemort, que y aurait un d'ailleurs un retourneur de temps qui aurait été utilisé. Toute l'histoire est basée sur les retourneurs de temps. Je vais pas en dire plus parce que je veux pas spoiler, mais en fait on fait toujours des allers-retours dans le passé, donc des milieux qu'on connaît très bien. Et puis on revient effectivement dans le futur, alors avec dans le futur de 19 ans plus tard, avec des fois le futur qui a été modifié du fait des influences qu'ont eu Scorpius et Albus, parce qu'ils ont volé le dernier retourneur de temps qui restait.
Parce que le retourneur de temps, on le voit utilisé dans Harry Potter le troisième avec les loups-garous, j'ai plus le titre.
Le prisonnier d'Azkaban.
Le prisonnier d'Azkaban, voilà. D'Azkaban, tu préfères dire Azkaban ?
Moi, je la dis à l'anglaise.
D'accord.
Toujours.
Et effectivement, il est confié à Hermione pour qu'elle puisse suivre un maximum de cours. Et il sert en général qu'à retourner le temps d'une heure ou deux pour qu'Hermione puisse suivre des cours. Et il est confié à Hermione par Albus Dumbledore. Et à la fin.
Par
McGonagall. Mais c'est celui, effectivement, de Dumbledore, je crois. Puisque, voilà, il est parfaitement au courant que c'est un de ses objets. Et qu'à la fin, même, elle lui rend, je crois, ou elle le détruit. Je ne sais plus comment ça se passe.
Alors, à la fin du film. Il n'y a rien qui se passe.
À la fin
et dans
livre.
Le livre, Je ne suis pas sûre qu'il se passe quelque chose non plus.
Non, en fait,
ce n'est pas spécifié.
Il ne le garde pas, je crois.
Ce n'est pas spécifié très clairement ce qu'elle en fait.
D'accord.
Alors, il est utilisé.
En tout cas, c'est un objet extrêmement rare.
Il est utilisé en fait pour ses cours.
Ouais.
Il est surtout en fait dans l'histoire du prisonnier d'Azkaban. Il est surtout utilisé là pour revenir dans le temps, etc.
Mais j'ignorais qu'on pouvait utiliser un retourneur de temps pour 19 ans. Enfin voilà, c'est-à-dire que on connaît tous en tant que geek le problème du paradoxe temporel, qui n'est un problème d'ailleurs qui n'a pas de sens au niveau scientifique. Déjà parce que scientifiquement remonter le temps c'est compliqué, mais le paradoxe temporel. Pour faire très simple, dans tous les films de science-fiction, dès qu'on parle de remonter le temps, le paradoxe temporel, c'est en fait quand on change n'importe quel événement du passé, il est extrêmement probable, et plus on remonte dans le temps, plus c'est vrai, que l'enchaînement des événements va faire que la machine à remonter le temps soit n'existera pas, soit ne sera pas dans les mains de la personne qui l'a pour remonter le temps, soit que la personne du coup qui a la machine à remonter le temps, si elle n'a plus de raison de remonter le temps, elle ne l'utilisera pas. Et donc qu'elle n'utilise pas la machine à remonter le temps pour remonter le temps, et donc que le temps n'est pas modifié. C'est du coup presque une tautologie, c'est-à-dire que si la machine à remonter le temps existe et qu'elle est utilisée, eh bien, la modification du passé fait que la machine à remonter le temps soit n'existera pas, soit n'aura plus de raison d'être utilisée. Donc, si on modifie le cours du passé, on n'a aucune raison de modifier le cours du passé. Donc, c'est tout le problème de ce paradoxe temporel-là. Alors, c'est gonflé de l'utiliser dans Harry Potter parce qu'effectivement, ça fait un peu des nœuds au cerveau, vous l'avez vu. Mais par contre, ça crée effectivement une capacité à mettre en parallèle deux époques. Ça, c'est plutôt passionnant.
C'est assez marrant à lire aussi parce qu'il faut se souvenir. Alors, ils sont partis à telle année, ils sont revenus à telle autre. Mais ça, c'était il y a 3 pages. Et puis, il y a 45 pages, ils sont repassés aussi par là. Mais du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Attendez, je reprends la page, ça ne va plus.
Cet exemple-là, parce que quand même, je vous ai un petit peu saoulé avec ça, mais pour illustrer l'exemple, imaginons que je me casse une jambe maintenant. Dans 2 jours, j'ai une machine à remonter le temps. J'utilise la machine à remonter le temps pour, du coup, faire en sorte que je ne glisse pas sur la peau de banane et que je ne me casse pas la jambe. Mais du coup, vu que j'ai plus la jambe cassée, rien ne me donne envie de remonter le temps pour enlever la peau de banane, en fait. C'est vraiment ça, hein, le paradoxe.
Oui, mais le problème est quand même réglé.
Oui, mais il est impossible que je pense à le régler. Grâce à la machine, c'est-à-dire que
on modifie forcément, hein, et de toute façon c'est aussi toute l'histoire de la pièce de théâtre.
Je suppose.
C'est-à-dire que là où ils ont l'impression qu'ils vont pas forcément modifier grand-chose, ils modifient forcément énormément de choses dans le futur.
Ils pourraient modifier même jusqu'à leur existence.
Oui, c'est clair.
Au fait qu'ils naissent, tout simplement.
Oui, clairement, oui, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que il y a des personnages qui disparaissent, réapparaissent. En fait, on va entre la 4e année de Poudlard de Harry, donc le tournoi des 3 sorciers, et puis Godric Solo, le jour de la mort des parents d'Harry Potter. Donc en fait, c'est vraiment entre ces deux périodes-là qu'on va. Bah oui, il se passe plein de choses. Forcément, la moindre chose qui peut tourner, bah ça influe sur la personne, et derrière, ça influe tout le cours de l'histoire.
Au niveau de l'écriture et du théâtre, comment ça fonctionne? Parce qu'on sait bien qu'il y a des règles en théâtre, la fameuse unité de temps, donc qui déjà est compliquée, l'unité de lieu qui est compliquée aussi parce qu'on voit des lieux effectivement différents, et puis l'unité de personnage, à chaque fois qu'un personnage rentre ou part, on change de scène. Mais du coup, pour cumuler les voyages dans le temps avec un changement de temps, l'unité de lieu où là il y a tellement de lieux différents dans Harry Potter qu'il faut les utiliser pour que ce soit intéressant, et puis ces personnages qui apparaissent, qui disparaissent sous la galerie, comment ils arrivent à effectivement le rendre vivant sans avoir besoin de changer le décor toutes les 3 minutes?
Alors ça, malheureusement j'ai pas pu encore voir la pièce, j'aimerais la voir.
C'est expliqué un peu dans le livre ou pas?
C'est un peu expliqué, ils expliquent effectivement, ils utilisent beaucoup de lumière, ils ont ce parti pris là en tout cas, beaucoup de changements de décor, ils n'ont pas le choix. Voilà. Mais je suis assez curieuse de voir comment ils font, parce que je trouve qu'une pièce de théâtre, déjà en soi, c'est pas si simple à monter. Il y a quand même un sacré parti pris à prendre. Mais alors, dans quelque chose de fantastique, dans la fantasy, c'est quand même loin d'être simple. Donc c'est vrai qu'ils décrivent, on voit assez bien, hein, comment ils font, mais alors, moi, je serais curieuse de voir vraiment comment ils font, parce que je pense que ça doit pas être si simple.
Parce qu'il faut maintenir un rythme. Imaginons que voilà, on est dans cette pièce et qu'on doit se retrouver 20 ans en arrière. S'il faut effectivement changer tout le décor, peu importe la vitesse à laquelle travaillent les machinistes et les machines qui prennent le changement de décor, s'il y a un changement de décor toutes les 4 minutes et que le changement de décor prend ne serait-ce que 10 ou 15 secondes, eh bien effectivement, dans cette intrigue, il y a des pauses tout le temps et ça peut faire sortir un peu le spectateur de la pièce. Donc c'est vraiment un travail assez intéressant sur la mise en scène et sur le fait d'amener ces changements-là comme ça. Alors, est-ce que cette pièce, du coup, change des choses dans l'univers d'Harry Potter ? Est-ce que s'il devait y avoir une deuxième pièce qui sorte ou de nouveaux films sur l'univers d'Harry Potter, est-ce que le résultat de cette pièce changerait un petit peu des choses ou est-ce que finalement c'est pas...
Non, ça changerait pas particulièrement de choses. C'est-à-dire que là, on reste sur 19 ans plus tard, donc ça laisse aussi une marge. Je pense qu'effectivement, elle a son importance, elle a le mérite d'être là, elle a le mérite, effectivement, tous les fans voulaient à un moment donné qu'il se passe quelque chose, hein. Tous les fans ont envie que J.K. Rowling reprenne du service, ça c'est une réalité. Après, sur l'œuvre en elle-même, sur les 7 livres qui existent, je pense que ça changera pas grand-chose. Mais moi, c'est vraiment mon avis. Je pense que si J.K. Rowling elle réécrit, je pense qu'il faut peut-être qu'elle aille ailleurs. Mais là, c'est mon avis à moi, parce que Harry Potter, on a aimé, ça a été un vrai succès. Et justement, pour éviter à un moment donné que les succès s'essoufflent, faut les arrêter et peut-être partir sur autre chose qui soit l'univers d'Harry Potter, comme ils l'ont fait pour les créatures fantastiques finalement, mais autrement peut-être.
D'accord. Donc sur Harry Potter, on a un peu fait le tour effectivement de ne pas gâcher en fait
les personnages en eux-mêmes. Ouais.
Marjorie, t'as donné envie de Chloé de voir cette pièce ou de la lire en tout cas ?
Mais moi, j'ai toujours envie de lire Harry Potter. C'est pas compliqué depuis que je suis tombée dedans quand j'étais petite. J'en suis jamais sortie. Hein. Donc oui, je vais la lire de toute façon.
Tu la recommandes à qui, Chloé, la pièce ? Aux fans absolus d'Harry Potter qui veulent absolument voir le texte, à n'importe qui ou qui tu recommandes ce texte ?
C'est-à-dire que je pense que les fans, il faut quand même qu'ils la lisent. Il y a beaucoup de fans, hein, qui se sont posé la question de la lire, vraiment. Mais je pense que de toute façon, il faut la connaître.
Est-ce que pour un novice, ça vaut le coup, par contre ?
Moi, je commencerai par les Harry Potter, les vrais, quoi. Enfin, les vrais, j'ai envie de dire les vrais. S'ils n'ont jamais lu l'univers Harry Potter... Et les 7 tomes qui existent, je commencerai par ça.
Et je suppose que même aller voir la pièce, si elle est jouée un jour en France, sans connaître bien l'univers d'Harry Potter, ça doit être un petit peu compliqué. Parce qu'il doit y avoir tellement de références à l'intérieur que la durée d'une pièce sur 2h30, ça doit être compliqué de pouvoir saisir les références et de profiter pleinement de la profondeur, en fait.
Après, ils expliquent pas mal. D'accord. Quand même, ils expliquent, enfin, dans la pièce, les références sont pas mal expliquées. Mais je conseillerais pour un novice, entre guillemets, d'aller d'abord lire les livres en premier et voir les films par la suite.
Merci pour toutes ces précisions, Chloé. Merci d'avoir lu pour nous. Enfin, tu as lu d'ailleurs pour toi surtout, hein, mais on dira que tu l'as lu pour nous. Effectivement, cette pièce de théâtre, Harry Potter, l'enfant maudit. On se retrouve la semaine prochaine.
Ouais.
Un petit mot de conclusion, Marjorie, peut-être ?
Retrouvez-nous sur Facebook et sur YouTube. N'hésitez pas à aller voir nos vidéos, parce qu'on est aussi en vidéo. Alors, si vous avez envie de voir nos trombines et d'écouter nos voix en prime, allez-y, vous gênez pas.
À la semaine prochaine, salut !
Salut !
Salut !